Laudetur Jesus Christus.
Cent mille enfants du monde entier réunis demain à Rome dans le cadre de la toute première journée mondiale des enfants. Initiative du pape François consacrée à la paix. Nous entendrons l'impatience d'une famille venue de Belgique en début de ce journal. À la une de l'actualité internationale, cette décision judiciaire très attendue. La Cour internationale de justice ordonne à Israël d'arrêter son offensive militaire à Rafah. La plus haute juridiction des Nations Unies appelle également à la libération immédiate des otages du 7 octobre par le Hamas. Nous irons également en Russie où Vladimir Poutine continue le grand ménage au sein de l'armée russe alors que l'offensive terrestre se poursuit au nord-est de l'Ukraine. Et puis le Kremlin prépare une visite en Corée du Nord où le culte de la personnalité s'intensifie autour de son dirigeant Kim Jong-un.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. Le pape se trouve en ce moment même dans une paroisse à l'est de Rome pour rencontrer près de 80 enfants et jeunes dans le cadre de l'initiative École de prière lancée par François en janvier afin de se préparer pour le jubilé 2025. Demain, ce sont des milliers d'enfants et de familles qui rencontreront le Saint-Père dans le stade olympique de Rome à l'occasion de la première édition de la Journée mondiale des enfants. Dimanche, une grande messe présidée par le pape sera célébrée place Saint-Pierre. Certaines familles sont d'ores et déjà arrivées dans la capitale italienne, à l'image de ces deux enfants venus de Belgique, interviewés par Vianney Groussin.
Et si les enfants devenaient les ambassadeurs de la paix pour le monde? C'est pour cela qu'ils ont tous été invités ce week-end par le pape. Ralph Emmanuel, 8 ans et demi, vient de Belgique et nous explique pourquoi il a fait le voyage à Rome.
Pour rencontrer le pape et aussi parce que moi je me suis fait baptiser pendant Pâques, le 31 mai. Et aussi parce que je voulais visiter Rome.
L'objectif de cette rencontre est donc de porter un message de paix au monde. Et pour Ralph Emmanuel, qui porte cette intention dans ses prières, ce n'est pas une parole en l'air.
Tous les jours, tous les dimanches, je prie avec mes cousines. On va à l'église tous les dimanches et on prie, on chante, on parle de Dieu.
Pour le père Fortunato, coordinateur de la journée, la simplicité du cœur des enfants est un don de Dieu. Et pour ceux qui savent l'accueillir, une possibilité de la paix. Clarisse, 7 ans et bientôt 8, prie justement pour la paix quand elle va à la messe.
Oui, parfois je prie pour ça à l'église. J'y vais parfois quand ils mangent le pain et le vin, je prie pour ça.
Dans son audience générale, mercredi dernier, le pape François avait appelé les enfants à savoir observer aussi dans les moments de joie les besoins de leur père qui souffre, victime de la guerre, de la faim ou de la pauvreté.
Un reportage signé Vianney Groussin. Eux auraient aimé rencontrer le pape François, mais la guerre leur en empêche. Les enfants de l'église de la Sainte Famille de Gaza, accompagnés du père Gabriel Romanelli, ont ainsi adressé une vidéo au Saint-Père dans laquelle ils le remercient de sa proximité. C'était une décision très attendue, celle de la Cour internationale de justice qui siège à La Haye, plus haute juridiction de l'ONU. Cette institution avait été saisie par l'Afrique du Sud dans le conflit à Gaza. Elle a ordonné cet après-midi à Israël de stopper immédiatement son offensive à Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne. Olivier Bonnel.
Oui, Alexandra, 13 voix contre 2. La Cour demande à l'État hébreu d'arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah, qui serait, ce sont les termes utilisés, susceptible de soumettre les Palestiniens à des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle. La Cour exhorte aussi le gouvernement israélien à maintenir ouvert le point de passage de Rafah pour que puisse être assurée sans restriction et à grande échelle la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence. Dans son ordonnance, l'organe onusien demande également de permettre l'accès à Gaza sans entrave de toute commission ou organisme qui permettrait d'enquêter sur des allégations de génocide. Le 26 janvier dernier, dans une ordonnance précédente, la Cour avait noté une situation humanitaire déjà catastrophique et qui risquait encore de se dégrader. C'est le cas, note-t-elle aujourd'hui. Selon l'ONU, près de 800 000 personnes auraient été déplacées de Rafah entre le 7 et le 10 mai.
Cette décision, Olivier, peut-elle infléchir la position israélienne?
Eh bien, il est fort peu probable, malgré cette nouvelle pression internationale. Alexandra, Benjamin Netanyahou veut garder la main dans sa guerre à Gaza. Avant la décision de la CIG, Tel Aviv avait prévenu que tout cessez-le-feu imposé ne ferait que permettre aux combattants du Hamas de se regrouper et rendrait impossible toute libération des otages à Gaza. Benjamin Netanyahou qui consulte en ce moment même ses ministres. La seule réaction officielle à ce stade vient du ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich. Nietzsche. L'histoire jugera ceux qui se tiennent aujourd'hui, dit-il, aux côtés des nazis du Hamas-Daesh.
Merci Olivier Bonnel. De son côté, le Hamas se salue également tout en déplorant que la décision ne concerne pas l'ensemble de la bande de Gaza. L'armée israélienne annonce avoir récupéré les trois corps de trois otages retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Parmi eux, un Israélien, un Israélo-Brésilien et un Franco-Israélien. Orion Hernandez Radou, il se trouvait au festival de musique Nova dans le sud d'Israël lorsque les combattants du Hamas ont attaqué. Emmanuel Macron a exprimé son immense tristesse, rappelant sur le réseau social X, je cite, que la France reste plus que jamais engagée pour la libération de tous les otages. Également mobilisé sur le cessez-le-feu à Gaza, le président français doit rencontrer ce soir à l'Élysée les chefs de la diplomatie de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie et du Qatar, ainsi que le premier ministre de cette monarchie du Golfe. Après l'Union européenne, l'OTAN se dit solidaire de l'Estonie. Hier, les gardes-côtes estoniens ont déclaré que leurs homologues russes avaient retiré pendant la nuit des bouées placées sur la rivière Narva, servant de délimitation entre les deux pays. Un incident frontalier sous fond de guerre en Ukraine. En Ukraine, l'état-major assure avoir arrêté l'assaut russe sur la région de Kharkiv, lancé il y a deux semaines. Les actions des contre-offensives seraient également menées par les troupes ukrainiennes dans ce secteur du nord-est du pays, où se trouve actuellement le président Volodymyr Zelensky. Pendant ce temps-là, en Russie, les arrestations des cadres du ministère de la Défense se poursuivent. Après l'arrivée à sa tête d'André Belouvos, un haut responsable de l'état-major russe a été placé hier en détention provisoire pour corruption. Il est accusé d'avoir accepté un pot de vin particulièrement important et risque 15 ans de prison. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Après Timur Ivanov, vice-ministre de la Défense, Yuri Kuznetsov, chargé des ressources humaines au sein du ministère, on a appris hier l'arrestation du général Vadim Chamarine, chef adjoint de l'état-major en charge des communications. Un tribunal militaire l'a placé en détention pour avoir accepté un pot de vin particulièrement important. Depuis fin avril, les arrestations se sont multipliées, tant au sein du ministère que du commandement militaire. Mais le Kremlin se défend de procéder à des purges. Selon son porte-parole, Dmitri Peskov, la lutte contre la corruption est un travail continu, il ne s'agit pas d'une campagne, cela fait partie de l'action de nos forces de l'ordre. Une action qui s'intensifie donc avec la nomination d'Andrei Belousov à la tête de la défense en remplacement de Sergueï Choïgou. Cet économiste de formation a pour tâche de faire monter en puissance les entreprises du complexe militaro-industriel, tout en jouant l'interface avec les militaires. Mais il a surtout pour objectif d'optimiser les dépenses alors que le conflit semble durer. Réputé difficilement corruptible, il prend son rôle très au sérieux en procédant à l'élimination des moutons noirs, dans une institution critiquée de longue date pour son haut degré de corruption. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Et le Kremlin indique ce vendredi préparer une visite du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord. La Corée du Nord, où un nouveau pas a été franchi par Kim Jong-un dans le culte de la personnalité. Alors que les portraits de son père et de son grand-père trônent déjà dans tout le pays, le troisième des Kim a pour la première fois apposé le sien aux côtés de ses aïeuls lors de l'ouverture d'une école pour les cadres du parti ce mardi. Les précisions à Séoul de Jean Labruyère.
Chantons pour Kim Jong-un, notre cher leader, notre père amical. La chanson diffusée à la gloire du leader le mois dernier semble s'inscrire dans une tendance plus générale visant à placer le dirigeant au plus haut niveau du panthéon familial. Ce mardi, la presse nord-coréenne affiche pour la première fois une de ses photos aux côtés de celle de son père, Kim Jong-il, et surtout de son grand-père, Kim Il-sung, le fondateur du régime. Les portraits des deux premiers leaders du pays se trouvent chez les habitants, dans les bâtiments publics, à travers la Corée du Nord. Mais pour la première fois, c'est trois Kim qui sont affichés au-dessus d'une ardoise dans une salle de classe de la nouvelle école des cadres du parti. Pour finir d'insister sur l'importance de la succession héréditaire, Kim Jong-un est décrit dans la presse comme un Kim Il-sungiste et un Kim Jong-iliste inébranlable. Un renforcement du culte de la personnalité qui interroge, alors que la multiplication des apparitions de la fille du leader nord-coréen en fait, selon les services de renseignement du Sud, sa successeur la plus probable. Difficile de déterminer les intentions de la propagande avec cette nouvelle glorification du leader, mais il est certain qu'elle déplaît en Corée du Sud. Les autorités ont interdit la diffusion de cette chanson devenue virale sur TikTok. Jean Labruyère, Séoul pour Radio Vatican.
Et puis on clôt ce journal en Chine. L'Église universelle prie aujourd'hui pour les catholiques chinois, comme tous les 24 mai depuis que Benoît XVI a instauré cette journée de prière. Les fidèles chinois étaient nombreux à se rendre en pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Shishan, près de Shanghai. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité et votre écoute. L'actualité reviendra lundi matin à 8h30, heure de Rome. En attendant, excellent week-end à vous.